comment la richesse de l'évangile peut nous aider à présenter le salut. Souvent, j'ai remarqué qu'on fait une erreur qui s'appelle la surspécification dans notre façon d'évangéliser. Je vous explique en quoi ça consiste. Est-ce que vous avez déjà vu des titres d'ouvrages du genre « La méthode du maître pour évangéliser »,« Les 5 points de l'évangile » ou des choses comme ça qui sont tirées à partir d'un texte. Par exemple, on prend Jésus et le jeune homme riche et on développe et on dit « Voilà, non pas une méthode, mais la méthode par excellence ». C'est ce qu'on appelle la surspécification. C'est-à-dire qu'on prend ce texte et on en fait un modèle systématique de façon de faire, par exemple, pour Jésus. Or, on voit que Jésus avait cette capacité extraordinaire de sonder les cœurs, parce qu'il connaissait parfaitement les personnes qu'il avait en face d'eux. Et avec Guillaume, on se le rappelait tout à l'heure, en deux phrases, il démonte la personne et arrive vraiment à parler à son cœur et l'amener vraiment à la repentance et à l'obéissance. Souvent, je sais pas, il y a certaines Bibles, vous savez, où il y a les paroles en rouge de Jésus. Vous connaissez ça? Et c'est frappant quand on voit un texte, un échange, où il y a Jésus, en fait, qui pose juste deux, trois questions. Et en fait, avec ces deux, trois questions, ces deux, trois éléments de réponse, vraiment fait mouche. Et quand on compare, par exemple, quand Jésus aborde un Zachée, la Samaritaine, Nicodème, qui d'autre, vous avez des exemples d'entretien comme ça, le jeune homme riche, etc. À chaque fois, Jésus prend une porte différente et va s'attaquer à une problématique chez la personne. Eh bien, ce soir, c'est ce que je vous propose, c'est qu'on revoie un petit peu la richesse qu'il y a, toutes les facettes, un petit peu comme un diamant. Hein, l'œuvre de la croix, c'est un diamant. Le salut, c'est quelque chose de merveilleux qui brille de mille feux et on peut le regarder d'angles différents. Il y a un éclat qui va sortir de façon différente. Et ça peut nous aider de nous rappeler ça dans notre façon de présenter l'évangile et peut-être faire attention, nous aussi, à ne pas avoir une évangélisation qui est systématique et un petit peu qui passe au forceps, et c'est comme ça, ça passe ou ça casse. Et peut-être aussi, un petit peu, on a l'impression que si on n'explique pas tout l'évangile, en passant d'avant la fondation du monde, création, chute, rédemption, et jusqu'à la fin, etc., et toute l'histoire, la grande histoire de la Bible, l'évangélisation a été nulle. Mais on voit dans la Bible même, que ce soit Jésus ou la prédication des apôtres, qu'ils ne font pas systématiquement la même chose. Il y a des éléments, ce qu'on appelle le kérigme, vraiment la prédication des apôtres, avec Christ au centre, mort et ressuscité, et présent. C'est clair et net. Mais avec des angles et des couleurs parfois complémentaires et qui montrent à nous, en premier, la richesse et toute la beauté de l'évangile. Donc souvent on dit « je suis pécheur, donc je suis coupable, donc je dois me repentir » ou « Jésus veut me sauver ». Le problème de beaucoup de témoignages aussi, c'est qu'ils s'arrêtent là quand on parle nous-mêmes de notre conversion, on parle de notre compréhension de notre vie de pécheur, toutes les choses mal qu'on a fait, on parle de notre conversion, et puis après il n'y a rien. Mais il y a beaucoup de choses, et vous allez voir que c'est très important de parler de l'avant et de l'après. Et souvent, on parle de la condition humaine même en parlant d'avant. On est pécheur, on est coupable, et Jésus va te pardonner, point barre. Comme s'il n'y avait pas d'après, il suffit juste de réparer le passé. Alors, nous avons dans la Bible même plein de textes différents qui nous parlent de l'évangile. Et des textes qui sont très différents. Il nous est présenté l'évangile sous forme d'histoire. Il nous est présenté aussi sous forme de promesses, sous forme de représentations dans des paraboles, des images, sous forme d'enseignements aussi. exemple, Paul, dans l'Épître aux Romains, là, c'est magistral, il explique toutes les facettes possibles et imaginables au niveau théologique, on est vraiment dans de l'enseignement. Alors, il y a plein de termes aussi qui sont utilisés, et vous allez voir qui ont emprunté. Paul, par exemple, n'a pas inventé de nouveaux termes, mais il a emprunté beaucoup de termes existants déjà, et il les a utilisés pour expliquer l'Évangile. Le pardon, l'adoption, la rédemption. J'écoutais un débat il n'y a pas longtemps, où c'était sur RMC, où les journalistes parlaient de la rédemption de Ribéry. Ribéry a opéré sa rédemption. Et un autre journaliste disait, non, attention, rédemption, c'est une image religieuse, donc dire qu'il a fait sa rédemption, c'est vraiment pas terrible, il faut utiliser d'autres mots. Et en fait, faire sa rédemption, vous allez voir, ça n'a pas de sens, et ce n'est pas biblique. J'avais envie de les appeler, là, si j'avais eu le téléphone sous la main, Régénération, justification, propitiation, expiation, enfin, vous voyez, des mots, des fois, bon, c'est un peu complexe, qu'on n'utilise plus beaucoup dans notre vie, l'expiation, hein, ou la propitiation encore moins. Alors, ce qu'il faut se rappeler, comme je disais, c'est qu'il y a des termes que Paul a utilisés, que nous ne sommes pas les premiers destinataires, qu'il y a eu, les auteurs ont parlé, Jésus parlait avant tout à Nicodème, et nous sommes, si vous voulez, pas les destinataires directs. Nous sommes tout autant concernés que Nicodème, mais nous ne sommes pas les destinataires directs. Donc il nous faut faire l'effort de comprendre ce que ces mots, ces termes voulaient dire. Vous voyez, par exemple, quand on parle de justification, c'est associé à un lieu symbolique, c'est le palais de justice. Vous allez voir. La propitiation, c'était un terme qui était lié au temple et au lieu très saint, où le sacrificateur venait verser le sang sur le propitiatoire, le dessus de l'arche de l'Alliance, pour apaiser la colère de Dieu. La régénération, bon, j'ai mis maternité, mais ça nous fait écho à ça. La rédemption, c'était une question qui était d'ordre sociétal, c'était le rachat d'un esclave. Sur une place, ceux qui étaient en situation d'esclavage étaient placés là et on pouvait racheter la condition d'esclave d'une personne. Par exemple, vous avez un cousin qui a fait faillite pour payer sa dette, il se mettait en situation d'esclave. Et vous, en tant que gentil cousin, vous ne voulez pas voir votre cousin comme ça, vous allez faire sa rédemption, vous rachetez sa dette pour le libérer de son esclavage. L'adoption, ça fait écho à quelqu'un, un enfant de la rue, quelqu'un qui est abandonné, qui n'a pas de famille. La réconciliation, ça nous fait penser à un acte de paix qui est fait. Et le pardon est un terme bancaire. Ça veut dire en fait une dette, la rémission d'une dette. D'accord ? D'un point de vue terminologie, on va passer très rapidement, mais il y a des questions de légalité, il y a des questions sacrificielles. On parle de nouvelle naissance, il y a une dimension qui est sociétale, une dimension sociale, relationnelle et bancaire. C'est très, bon, pour le moment, c'est 13 aspects encore, je vous enverrai le PowerPoint. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que ça nous dit de notre condition humaine. En haut à gauche, c'est condition humaine. Ce que ça rappelle, c'est que nous sommes coupables et nous avons besoin d'être innocenté. Nous sommes pécheurs sous la colère, besoin qu'on nous ôte notre culpabilité. Nous sommes morts spirituellement, nous avons besoin d'une vie nouvelle. Nous sommes esclaves, du coup, ça nous fait écho au besoin d'être libérés. Abandonnés, besoin d'une famille. Ennemis de Dieu, besoin d'être réconciliés. Endettés, besoin d'être remboursés. Vous avez vu le réconfort, il est dans une culture qui est christianisée. Et la notion de culpabilité morale par l'héritage chrétien est encore très présente. Moi, j'étais quelqu'un, peut-être certains d'entre vous, j'ai fait beaucoup de bêtises avant ma conversion. Donc, le sentiment de culpabilité, je l'avais. Mais certaines personnes qui n'ont pas fait grand-chose de mal ne ressentent pas ça. Et si on ne parle que de la culpabilité, de notre besoin d'être lavé de notre culpabilité, ça ne va pas nécessairement faire écho. Par contre, il y a des personnes qui ont vécu un profond abandon, qui ont vécu une solitude extrême. Et ça, c'est aussi des éléments qui sont intéressants parce qu'ils font partie de nos besoins profonds à laquelle la croix répond. Attention, je crois que la doctrine principale et centrale de la croix, c'est la question de la justification. C'est clair et net. Mais néanmoins, il y a ces autres aussi besoins qui peuvent être des portes d'entrée. Parce que sur la croix, Jésus a porté ma culpabilité. Il a été l'agneau de Dieu, il a été celui qui a pris la colère à ma place. Il est mort pour moi. Il a été esclave à ma place. Il a été abandonné. Il a été puni. Il a payé pour moi. C'est pas juste il est mort pour moi. C'est derrière ce terme-là, on pense à toutes ces choses-là. Et puis, voilà. Par la croix de Jésus, je suis juste. Je suis purifié. Je suis né de nouveau. Je deviens son serviteur. Je suis enfant. Je suis ami, je suis riche. Vous voyez, on passe d'endetté, non pas à zéro, mais on passe de moins à plus plus, de débiteur à crédit plus plus plus. Et voilà, c'est la même chose, mais ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment entre l'avant et l'après. Et c'est très important, et souvent on peut prendre des lignes comme ça. Moi j'ai une amie, la question de la culpabilité et tout ça, elle l'avait absolument pas, mais par contre, elle avait cette question de solitude qui était très présente. Mais une solitude, je parle pas uniquement sociale, mais qui était aussi spirituelle. Du coup, je lui expliquais pourquoi elle se sentait, parce qu'elle avait besoin de cette relation-là. Et je lui expliquais la croix. Et après, on peut déployer toutes les facettes de la croix. Mais c'est, je pense très bien de ne pas toujours être systématique, rigide dans notre façon de présenter, mais d'essayer de déceler, de comprendre quelles sont les failles, les besoins, les aspirations et différentes choses chez la personne. Et puis voilà, ce que ça nous révèle sur Jésus, beaucoup de choses, et là je suis générique, et il y a beaucoup d'autres choses que l'on pourrait dire, mais que voilà, Jésus n'est pas que celui qui a payé pour nous. Il est aussi après notre avocat, il est tout ça. Et bien sûr, c'est parfaitement en corrélation entre le rôle de Christ et celui de Dieu, ce qu'il représente pour nous. Ça se complète et ça apporte beaucoup de richesse de pouvoir avoir ça à l'esprit et de présenter toutes ces choses-là. Et puis après, on en vient sur le rôle de chrétien, de celui qui était coupable, qui devient après témoin de la grâce. Celui qui était mort spirituel, qui devient enfant de Dieu et qui a la vie éternelle. Celui qui était d'esclave à esclave, serviteur. Celui qui était abandonné, membre d'une nouvelle famille. Hier, j'ai rencontré une dame qui était divorcée, qui a élevé ses 3 enfants toute seule, dont un autiste, qui n'a jamais été aidé et qui vit seule. Elle a appris qu'elle avait un cancer du sein hier, 2-3 heures avant que je la rencontre. Et dans sa solitude, je lui ai aussi parlé de la famille de Dieu, de ce que c'était l'Église, cette famille qui était rassemblée autour d'un père, que si quelqu'un l'avait abandonnée, elle ne pouvait plus faire confiance, il y avait quelqu'un qui était fidèle et sur qui elle pourrait toujours compter si elle se confiait en lui. Après aussi, souvent, on croit qu'il faut avoir une ultra grosse conviction de péché pour pouvoir désirer s'approcher de Dieu. Mais des personnes désirent s'approcher et c'est à la lumière, en s'approchant de la lumière, réalisent la noirceur de leur cœur et reçoivent la conviction de péché par le Saint-Esprit, qui est un élément clair, net de la conversion. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions? Mais si vous en avez, on verra après pour que je laisse la place à Alex, à moins qu'il y ait vraiment une question brûlante. mais sinon je lui laisse la place. C'est brûlant. Pardon ? Oui. Philippiens 2. Voilà, je te laisserai lire.
Yo. Juste là, je peux peut-être préciser parce que j'étais à plusieurs reprises à certains qui étaient ici que expiation, propitiation, c'était deux terminologies qui pouvaient être parfois différentes. Donc là, il n'y a que deux, je suis convaincu que tu as aussi deux.
Oui. C'est pour simplifier.
D'accord, c'est bien d'accord avec les différences.
Oui.
Pour que tout le monde soit bien
oui,
là-dessus.
Oui.
Et.
Oui.
Dimension de...
Oui, ça se rend compte. Expier, c'est ôter. Vraiment, en fait, l'expiation vise le pécheur, la propitiation vise Dieu. Voilà. Ok ? La propitiation vise, en fait, l'accent s'est tourné pour calmer la colère de Dieu, et l'expiation, c'est pour ôter. Je t'attends là. Très bien. Alex ?
Ok. Bonsoir. C'est bizarre de voir ce côté-là. Merci Raph pour. Parce qu'il a soulevé des points qui sont importants en fait. Et entre ce qu'on va voir ce soir et ce qu'on va voir demain, il y a eu un rappel qui a été fait qui est en fait central. Parce que. Nous, ce qu'on va voir surtout demain, aujourd'hui on va voir l'importance, plutôt la place de la loi dans l'évangélisation, et demain on verra comment l'utiliser. C'est-à-dire que c'est pas la méthode, c'est un process, c'est quelque chose qui vous est donné afin que ça puisse être un outil. Mais on voit aussi le côté central parce que il y a une place, mais c'est pas la finalité. La finalité, elle est inchangée, elle est invariable, ça reste Christ crucifié, ça reste Christ qui sauve, ça reste Christ qui se transforme et Christ qui nous libère. Juste, je vais peut-être demander à Mike de lancer la vidéo avant le PowerPoint. Merci, nickel. Je bouge les trous. Hein. Alex, il faut faire en même temps, c'est ça ?
Ouais. Pour moi, c'est les deux.
Ouais. Non, mais non, c'est bon là parce que. Ah, c'est parce que là. Ok, il n'y a plus de bug. Enfin, on va écouter son délai.
Désolé.
Sinon, c'est parti.
Meet Mr. Nice Guy. You think you're nice? This guy is really nice. Well, I try to do what's right. He's so nice that if good people get to heaven, he'll be the first in line. Ah, shucks. So, Mr. Nice Guy, have you kept the Ten Commandments?
Pretty much.
Do you mind if we take a look at them and maybe see how nice you really are?
Okay.
Great. Here's one. You shall not lie. Mr. Nice Guy, have you ever told a lie?
Well, yeah. Who hasn't?
What do you call somebody who tells lies?
A liar.
All right. How about another commandment? You shall not steal. Have you ever stolen anything, even once?
Nope.
But you just told me you're a liar.
Well, I did steal some candy once when I was a kid.
And what do you call someone who steals?
A thief.
All right, let's try another one. You shall not commit adultery.
Oh, that's easy. I'd never cheat on my wife.
Hi, handsome.
Oh, baby!
Jesus said, if you even look at a woman with lust, you've already committed adultery with her in your heart.
Right.
One more. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Have you ever used God's name to curse?
Oh!
That, Mr. Nice Guy, is called blasphemy. God gave you life and breath and everything you have, and you've dragged his name through the dirt. So, by your own admission, you're a liar, a thief.
Thank you.
Cette vidéo rappelle en fait brièvement ce qu'on a vu dans Genius, en fait, l'approche, mais surtout le côté où la loi, elle est claire avec nous, c'est qu'elle a un poids capital sur nos vies. Mais il faut bien comprendre qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. On va vraiment voir quelle place a ce soir la loi dans l'évangélisation. Et surtout, vraiment, je souligne en fait ce qu'a dit Raph juste avant, ce qu'on verra plus précisément demain soir par rapport à comment l'utiliser, c'est vraiment pas la méthode, c'est une parmi tant d'autres, et ça nous permet juste, honnêtement, je le vois vraiment comme un outil, un pont, qui permet vraiment d'arriver à cette finalité de parler de Christ, de présenter Christ, et c'est ça le gros du... Ok, super. Ok. Il y a le secret. Enfin, c'est tiré du livre de Ray Comfort, justement, qui dit que le secret le mieux gardé de l'enfer, c'est que... Pardon, ça marche pas. Voilà. L'évangélisation par la loi, c'est quelque chose qu'on a perdu. On ne fait pas, ou alors on ne fait peu, ou alors on sait pas trop comment ça marche, ou alors on... C'est quand même quelque chose d'assez flou. L'évangélisation d'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'évangélisation moderne, elle nous donne quand même quelques chiffres. On voit qu'il y a des rechutes. Qu'est-ce que j'appelle des rechutes? C'est-à-dire que il y a 80 à 90% des personnes qui se disent converties. On voit ça dans la vidéo de Genius. Ouais, j'ai levé la main une fois dans ma vie. J'ai répondu à un appel. Il y a eu un appel. Je suis allé devant. On a prié pour moi. J'ai répété bêtement. Enfin, j'ai répété ce qu'on m'a dit de répéter. Et on voit, en fait, c'est des chiffres qui montrent juste que il y a 294 000 décisions qui ont été faites aux États-Unis sur une année entière, et que sur ces 294 000 décisions, on n'en retrouve que 14 000 dans les églises. Pourquoi? D'où ça vient? Est-ce que c'est un manque de suivi? Est-ce qu'on a négligé la façon de mettre en pratique la parole de Dieu? Est-ce qu'on a négligé la façon de lire sa parole, de s'y plonger, de s'y baigner? On va vraiment voir aujourd'hui, juste, je vous invite juste à ouvrir vos Bibles, dans Marc chapitre 10, verset 17. On va voir quelques passages qui sont centraux et j'aimerais vraiment vous faire participer en mode lecture. Donc soyez juste au taquet. Ok, que nous dit Marc chapitre 10, verset 17? Ok. Merci. On voit que c'est l'histoire de l'homme riche qui a été mentionnée auparavant, mais on s'y attardera plus en détail demain soir. Mais on voit bien que cet homme va voir Jésus, mais que Jésus, il était souverainement bon et parfait et connaissait l'attitude de cœur, connaissait ce qu'il y avait en dessous, ce que nous sommes incapables de faire, du moins sans l'esprit. Et l'esprit crée en nous cette capacité tout juste de proclamer ce qui est vrai, ce qui est vrai dans la Bible et dans sa parole. C'est que tout simplement, il est souverain sur nos vies, qu'on est pécheur, qu'on a besoin de lui, et qu'il nous sauve et qu'il nous aime par-dessus tout. Ok. Jésus, face à cet homme, il n'a pas dit il y a un trou dans ton cœur que seul Dieu peut combler. D'accord? Il n'a pas non plus dit répète cette prière après moi et tu seras sauvé. Il n'a pas non plus dit encore demande-moi plutôt d'entrer dans ton cœur. Et il n'a pas dit voilà ce que je te promets, c'est la joie, la paix, la plénitude, le bonheur et le paradis. C'est-à-dire que souvent, c'est ce qu'on peut voir aussi, ce qui a été souligné, cette notion de un petit peu de fausse conversion qu'on peut voir ou qui est le fruit peut-être d'une proclamation qui est erronée, qui n'est pas biblique, tout simplement, parce que lorsqu'on annonce Christ, juste tout simplement prêcher, annoncer le fait que Christ vous donnera une vie, ce sera un long fleuve tranquille, ce sera juste parfaitement bien, vous serez riche et tout ira bien, c'est pas fidèle aux Écritures. Et dans ce cas-là, on est en train d'annoncer quelque chose qui est faux. Et si jamais la personne se convertit, si la personne croit en la parole que vous allez lui dire, dès qu'elle va rencontrer une souffrance, dès qu'elle va rencontrer une épreuve dans sa vie, elle va venir vous voir, elle va venir dire « Eh, tu m'as menti. t'as pas été gros avec moi, tu m'as promis un truc que je suis pas en train de vivre. Et finalement, il y aura une déception derrière. Ce que Jésus a fait, il s'est servi de la loi. C'est-à-dire qu'il lui a parlé de manière frontale, c'est-à-dire il lui a dit, est-ce que tu as obéi aux 10 commandements? Voilà, il en a ciblé quelques-uns, mais surtout, lorsque l'homme riche, ce qui est important de préciser, lui répond qu'il a suivi toutes ses lois, on voit que Jésus, il s'est réjoui en fait. Et ensuite, il lui a posé cette question, enfin, il lui a plutôt dit de donner une partie de ses biens, tout en sachant pertinemment, par sa souveraineté, qu'il ne le ferait pas. Donc, ce que Jésus fait, c'est qu'il rappelle ce qu'on a fait de mal au tout début. Il recentre. Il nous rappelle un point qui est essentiel, notre être à nous, notre situation, notre statut. Il nous rappelle qu'il est mort à la croix pour nos péchés, pour notre condition à nous. Parce que nous étions ennemis de Dieu, nous étions ses ennemis, pourtant il nous a aimés et il est mort pour nous. Il a payé à notre place. Il nous rappelle aussi cette notion qu'on a offensé Dieu en violant sa loi. On va vraiment, peut-être que là je survole peut-être rapidement, mais on va creuser plus en profondeur, mais cette notion elle est importante. On a offensé Dieu en violant sa loi. On est donc condamné par la loi comme des transgresseurs. C'est quelque chose de logique, c'est quelque chose de clair. Dieu ne se contredit pas, Dieu est juste simple. Et c'est la puissance de Dieu qui nous amène au salut. Rien d'autre. Il n'y a aucune autre solution. On va juste voir Romains 3, 19 et 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Et le verset 20 nous précise et complémente ce verset en disant « En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. » Alors, ces versets, ils sont pour moi extrêmement intéressants, parce que c'est par l'intermédiaire de la loi que nous vient la connaissance du péché. Et sans la loi, on était rendu incapable de discerner quel péché on fait, est-ce que ce qu'on fait on pêche, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Dans 1 Jean 3, 4, tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché c'est la violation de la loi. Si notez vraiment ces versets et amusez-vous à les relire chez vous, franchement, parce qu'ils sont juste pertinents. On voit quelle place a la loi, on voit que la loi existe et a une place prédominante dans l'Ancien Testament. On voit aussi que la grâce a un effet et la grâce nous sauve. Attention, hein. Et je vous invite vraiment à j'attire votre attention sur Romains 7:7 en fait. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne m'eût dit, tu ne convoiteras point. On voit l'intervention de la loi dans notre cœur. On voit quelle est son action dans nos vies. Et on voit qu'en fait, lorsque la loi est juste énoncée, est juste soulignée, elle a un effet. Elle a un effet direct sur nous. Bien sûr, il y a des backgrounds, il y a des arrière-plans. On peut s'adresser à un athée qui a eu ou un musulman. On voit qu'ils ont une conception de Dieu, ils ont un respect de Dieu que les athées n'ont pas. Je suis sûr que si on fait un mini briefing de aujourd'hui quand on est sorti sur le marché, quand on a parlé à un catho ou un athée, est-ce qu'ils ont eu une sensibilité particulière par rapport à Dieu? On voit vraiment, moi personnellement, je vois vraiment que non. Des fois, ils se permettent de nous répondre un peu cash, alors que les musulmans, eux, ils n'hésitent pas à prendre du temps. Ils n'hésitent pas à prendre de leur temps, parce qu'ils ont un respect par rapport à Dieu. Mais on voit que la loi, elle est existante. Dans notre cœur, en tout cas. Galates 3:24 nous précise, Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. On voit le mot loi et le mot foi dans la même phrase, sans qu'il y ait une contradiction. On voit que la loi a été comme un pédagogue, elle a été un maître, elle a été un enseignant pour nos vies, dans un seul et unique but, nous conduire à Christ. La loi n'existe que pour une seule chose, nous montrer qu'on est pécheur. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à l'accomplir. Nous personnellement, et ceux qui sont en dehors de ces murs, on est incapable d'accomplir la loi. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de Jésus-Christ. Et la loi a été un enseignant, a été un maître pour nous, afin qu'on puisse juste comprendre la personne de Christ, comprendre l'utilité, comprendre la nécessité et la vitalité de son sacrifice pour nous, et donc d'être justifié par notre foi en lui. L'évaluation d'aujourd'hui, l'évaluation moderne, elle s'est un petit peu débarrassée de la loi. Pour ceux qui étaient là à Montreuil en mai-juin dernier, moi honnêtement c'était la première fois que j'entendais vraiment cette place et cette notion de la loi dans l'évangélisation. Et avant c'était pas quelque chose qui était commun à entendre, ni dans mes oreilles. On voit également que... qu'il y a d'autres raisons pour les pécheurs de répondre à l'évangile, du coup. Si la loi n'est pas énoncée, la loi qui souligne finalement le péché, puisque la loi est un pédagogue, la loi nous permet de nous rendre compte de notre condition, si elle n'est pas énoncée, alors il y a le risque qu'on accepte, qu'on dise oui, j'accepte le Seigneur, ou oui, je décide de le suivre pour de mauvaises raisons. Lesquelles ? Une meilleure qualité de vie. Lorsqu'on dit, lorsqu'on promet, lorsqu'on affirme, ce qu'on a pu voir un petit peu en le premier jour, face à des doctrines qui sont prêchées, qui sont pas centralement bibliques, et qui éloignent plus que rapprochent le Christ, on voit que ce qui est prôné, c'est souvent la paix, la joie, l'amour, la satisfaction et le bonheur durable sur cette terre, et pas forcément dans le ciel. La vie terrestre est taxée. On va voir juste l'exemple de deux hommes. C'est deux hommes qui sont dans un avion. D'accord ? Ils montent dans l'avion et il y en a un des deux où on leur dit voilà, mettez ce parachute et mettez-le sur votre dos et installez-vous. Il y en a un, il le met et l'autre qui refuse de le mettre. Et ils sont confortablement installés. Seulement, on lui dit pas ce qu'il y a, on lui dit pas qu'un jour il va devoir sauter. Mais on lui dit porte-le, mets-le, et ça te servira. Le gars, il va le mettre, il va s'asseoir, il a 11 heures de vol devant lui, il va se rendre compte qu'au bout d'un moment, il a mal au dos parce qu'il est comme ça. Les gens, déjà rien que dans un avion, je sais pas pour ceux qui prennent l'avion souvent, sans avoir de bagages sur soi, c'est déjà difficile d'être assis pendant très longtemps, on a vite des courbatures. Et cette personne, elle va dire, mais ça me gêne, ça me dérange. Et puis les gens, ils vont dire, regardez, le mec, il a un parachute sur son dos, quoi. Il est pas un peu... C'est-à-dire qu'il affronte aussi le jugement extérieur, la vision des autres, la gêne physique qu'il peut avoir. Et on voit la situation de ces deux hommes. Et on lui dit, mais t'inquiète, ça va améliorer ton vol. Et lui, il voit pas du tout l'amélioration. Il se dit, non, mais tout sauf l'amélioration. On voit que il va finir par sauter de l'avion, seulement s'il décide de l'enlever avant que le grand bond arrive, il va rater le saut. Il n'aura plus rien pour sauter. C'est pareil avec Christ. Si on annonce Christ d'une manière, voilà, t'inquiète, il va améliorer ton vol. Ça va être un vol agréable. Tu verras qu'en fait, c'est pas si dur que ça. C'est assez mou, le parachute. Ça fait un petit peu comme un coussinet. Et tu le mets, en fait, c'est dur, c'est robuste, ça te pète le dos, et tu dis, mais mince, je souffre à porter ce parachute. Je souffre dans ma chair, et en plus, on se moque de moi. Ben mince, je décide de l'enlever, parce que moi, on m'avait pas dit ça. Moi, on m'avait dit que ce serait bien. On m'avait dit que je serais dans un long vol tranquille, et que j'arriverais à destination. Donc, il l'enlève. C'est à un moment donné, faut sauter. Et il se dit, mince, j'ai plus mon parachute. Et c'est exactement ça. Si on prêche l'évangile d'une mauvaise manière, on leur dit, Jésus-Christ, il va vous transformer votre vie bénéfiquement et positivement, et tout ira bien. On leur dit pas que... Les questions du baptême, quand on voyait la vidéo des Bambara qui ont été baptisés, elles sont centrales. Hein. Est-ce que tu acceptes de suivre Christ, même si on te crache dessus, même si on cherche à te tuer, parce que c'est ce qui nous est promis dans la parole de Dieu. On sera persécuté pour notre foi. On sera rejeté. Et ce qui est important de préciser, c'est de pas camoufler. Souvent, quand on veut annoncer Christ, on a tellement envie que la personne l'accepte que on avoid, on esquive quelques trucs. Moi qui parle anglais. Et alors que non, faut annoncer Christ pleinement, entièrement et dans toute sa radicalité, dans toute sa globalité. On voit également que l'amour, la joie, la paix, la satisfaction et le bonheur sont promis dans la parole de Dieu. Mais c'est pas ça qui sont, c'est pas ce qui va faire votre voyage. Et surtout qu'on voit que l'espérance pleine et entière, elle se trouve au ciel avec Christ, en face to face avec lui. C'est ça ce qui nous anime, ce qui nous fait brûler, ce qui nous renforce chaque jour, surtout face à l'épreuve et face à la souffrance du chrétien, c'est l'espérance que il va revenir nous chercher. Après, je ne veux pas rentrer dans le débat de quand, ni comment, ni combien de temps, mais il va revenir, ça c'est une certitude. Et qu'il va nous emmener avec lui. La deuxième étape. Ok. Jésus améliorera votre vol. La tentation, les épreuves et la persécution promise, elle est due. Donc, si elle est inexistante, là, ça fait que la personne enlève le parachute. Et il faut bien appuyer. Ça entraîne une rechute ou un rejet. Ou alors ça remplit d'amertume. Parce qu'on se dit, on m'a trompé. On se dit, c'est parce qu'on m'a pas vendu ce que je suis en train de vivre. Du coup, j'en veux pas. Et c'est ce que John Lennon a vécu. Hein. Si vous avez suivi la vidéo... Il a accepté spontanément Christ en ayant vu un film et en ayant décidé, mais pleinement, cette action de repentance, cette conviction de péché, je pense à un verset qui vient spontanément, c'est dans 2 Corinthiens 7, 10, qui nous dit que la tristesse qui vient de Dieu, qui mène à la repentance, qu'on ne regrette jamais, qui mène au salut. Alors que la tristesse qui mène pas à ça, qui mène à la mort. Et finalement, quelle démarche on a lorsqu'on accepte Christ? Quelle démarche on a lorsqu'on proclame Christ? Ne serait-ce que dans la rue. Notre rôle dans tout ça, c'est avertir les passagers. Considérez que vous êtes des ambassadeurs. On voit ça dans 2 Corinthiens 5, 10. On est des ambassadeurs de la réconciliation. Considérez que vous êtes des ambassadeurs, que Christ nous a réconciliés avec le Père, et que vous êtes dans l'avion, et que l'avion est rempli de personnes qui n'ont aucun parachute. Pourtant, vous savez que l'avion va crasher. Votre rôle, c'est d'avertir chacun de ses passagers. Parce que la Bible est claire. Il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. On voit que c'est central. C'est irréfutable. Quand on était à Montreuil, on était sur un arrêt de bus et il y a une dame avec qui on parle et elle était bouddhiste. Et elle nous dit qu'elle croit à la réincarnation. Ok. Et là, on lui dit que la Bible, elle nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois. Après quoi, il y a le jugement de Dieu. C'est-à-dire qu'après quoi, on se retrouve face to face avec Dieu et on lui rend des comptes. Il fait oui, mais ça, c'est votre vérité. Ça, c'est vous qui croyez. Ok, ben. J'accepte. Si je comprends bien, si j'ai bien compris, vous considérez que... Mais considérez aussi une chose, c'est que si vous avez raison, et que je me trompe, j'aurais été une personne avec une moralité relativement, on va dire, bonne, dans des critères humains, j'aurais vécu une vie à peu près correcte, et arrivé à la fin, bon ben je me plante. Mais imaginez un seul instant, une seule seconde, que j'ai raison. Et que vous mouriez, parce qu'on voit que la Bible nous dit que la vie est comme un souffle. Elle est éphémère. Le côté vraiment short de la vie. Et on peut mourir dans 30 secondes d'une crise cardiaque, d'une voiture qui nous chope, d'un pot de fleurs qui nous tombe sur la tête, n'importe quoi. Et cette personne, on lui dit, qu'est-ce que vous faites si vous vous retrouvez devant Dieu et que vous y attendiez pas? Et que Dieu, il vous dit, mais mince, quoi, je t'ai donné la vie, je t'ai offert une solution face au péché. Maintenant, voilà ce que t'as fait dans toute ta vie. Après quoi vient le jugement? Je dis pas qu'il faut coincer les gens. Je dis qu'il faut leur dire la vérité concernant leurs conditions. Les confronter tout simplement à ce qu'ils sont, à ce que nous sommes. On est pécheurs. Et sous le péché, on est privé de la gloire de Dieu. Et donc, on est condamnable. On est ennemi de Dieu. Et si on est ennemi de Dieu, on ne mérite pas d'aller au paradis. Donc, si on précise ces choses-là, si on proclame les choses clairement, et que Dieu, dans sa grâce, décide de toucher cette personne, et qu'il se tourne vers lui, ça permet de se tourner vers Dieu, d'échapper à sa colère. Parce que, dans Actes 17, verset 30, il nous est dit, « Ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. » Annoncer Christ, c'est bien. Annoncer la repentance, c'est mieux. Et c'est la repentance qui mène à Christ. Annoncer le péché existant dans nos vies. Parce que il est important d'annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est central, je suis d'accord avec vous. Mais si vous annoncez la bonne nouvelle dans la rue et que la personne, elle vous dites « Bonjour, acceptez Jésus. Il veut vous sauver. » Il veut me sauver de quoi? De quoi est-ce qu'il veut me sauver? Je me sens bien, moi. Je suis juste droit, je suis quelqu'un de bien. Bon, ok, je fais quelques petits trucs à droite à gauche, mais j'ai pas besoin d'être sauvé. On a besoin d'annoncer la mauvaise nouvelle avant d'annoncer la bonne. On a besoin de leur dire, écoutez, votre maison, elle est en feu. Et vous avez besoin de sortir. Il y a quelque chose qui va pas. On est contaminé par un virus qui s'appelle le péché et qui fait qu'à cause de ça, on est juste bon pour aller en enfer. Le péché, c'est comme de la pourriture. Je sais pas si vous avez déjà eu des pommes, un panier de pommes et vous laissez traîner. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et la pomme, elle commence à pourrir, puis ça grignote de plus en plus, jusqu'à contaminer tout panier. Et à la fin, c'est tout qu'il faut jeter. Finalement, c'est ça. Si on n'annonce pas la mauvaise nouvelle, si on n'annonce pas qu'on est pécheur, si on n'annonce pas qu'on a besoin d'être sauvé, alors quand on va dire, acceptez Jésus, il vous aime et il veut vous sauver, les gens vont juste entendre, il y a un gars qui m'aime et qui veut me sauver, mais je comprends pas vraiment de quoi. Pourquoi il est venu sur terre? Quand vous posez la question aux gens dehors, pourquoi est-ce que Jésus est venu? Ils savent pas répondre. Dieu est amour, ça ils le savent. Dieu est miséricorde, ils le savent. Mais concernant quoi? Finalement, ça revient à confronter le bonheur contre la justice. Être heureux, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la justice de Jésus-Christ. Être heureux sur cette terre, si on recherche un bonheur humain, si on recherche un bonheur matériel, si on recherche un bonheur au niveau de la société, au niveau d'un épanouissement, au niveau d'un monde qui est postmoderne, si on recherche un bonheur qui est centré sur nous-mêmes, alors c'est vain. Ce qui est important, c'est la justice de Jésus-Christ. Pourquoi? Car elle nous sauve, car elle nous transforme, elle nous libère. Elle nous permet d'accéder à son plan qui nous était inaccessible parce qu'on avait brisé cette relation qu'on avait avec lui. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Proverbe 11, 24. Le jour où la colère de Dieu va s'abattre sur nous, du moins sur les êtres humains, où on sera jugé, toutes les richesses qu'on pourra amasser sur cette terre et dans notre vie ne plaideront pas pour nous, ne parleront pas en notre honneur, ne nous défendront pas, car il n'y a que la justice qui délivre de la mort. Le deuxième passager, celui qui n'a pas enlevé son parachute, que lui arrive-t-il? Mais il est comme ça. Il boit son café, il est tranquille. Même si il souffre. Attention, je suis pas en train de dire qu'il est en train de vivre un vol paisible. Il souffre dans sa chair. Il souffre peut-être dans des remarques. Il souffre du péché qui existe toujours. Cette dualité de on est dans le déjà mais dans le pas encore. On est déjà sauvé mais on n'est pas encore glorifié. On est déjà sanctifié mais on n'est pas encore libéré du péché. Il a cette paix et cette joie qui l'anime parce qu'il sait, il connaît son espérance, il connaît sa destination, il sait qui l'attend. Mais il sait également qu'il souffre en lui. Il sait également ce qu'il attend sur cette terre. Il a cette espérance éternelle, il a cette assurance, mais il a cette certitude que sur cette terre, ça ne va pas être de la tarte. Et ça, c'est ce que nous savons. Mais si on le sait, communiquons-le. Ne le cachons pas. Les 10 commandements, qu'est-ce qu'ils nous révèlent? Ils nous révèlent que notre péché, il est excessif. Excessif selon qui? Selon Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est parfait, Dieu est parfaitement saint, Dieu est parfaitement immuable, il change pas. Sa substance est la même. Et si vous voulez, il est tellement saint qu'il tolère pas le péché. Je sais pas si vous voyez un petit peu en hiver lorsqu'on ouvre notre fenêtre et qu'il y a, vous ouvrez et vous voyez de la neige partout. Personne n'a encore marché par terre, c'est tout blanc. C'est juste super kiffant. Ben moi je vais arriver et je vais prendre un seau de peinture et je vais balancer en plein milieu de la cour. Ben vous aurez beau faire tous les efforts que vous voudrez, vous verrez que la tâche. Mais ben Dieu avec nous, quand il nous regarde, il voit forcément le péché. Il peut pas juste éviter le péché et dire c'est bon, allez. Il voit le péché. Chose qui est totalement incohérent avec sa personne. Et du coup, il y a une sentence parce qu'il est droit, il est juste. C'est pas un juge corrompu. C'est un juge qui applique sa sentence en temps et en heure dans le temps qu'il a choisi. On voit que les 10 commandements préparent également notre cœur pour l'évangile. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de les suivre. Aucun homme dans toute l'histoire de l'humanité à part Christ ne l'a suivi. Tout homme a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tout homme a trouvé a été juste. On voit que les plus grands repères de notre foi sont passés par la repentance, sont passés par des épreuves de dépression, comme David, comme ce qui était souligné. On voit qu'ils étaient dépendants de la personne de Christ, qu'ils n'étaient pas du style j'ai foi en toi, Seigneur, et maintenant je marche par moi-même et je marche bien. Constamment, il revenait à lui. Constamment, il était nécessaire de revenir à la source. Martin Luther a dit, car ils ne connaissent pas la loi de Dieu qui leur est adressée, il leur est impossible de connaître leur péché. S'ils connaissaient la loi, ils connaîtraient aussi leur péché et le péché auquel ils sont actuellement morts deviendrait alors vivant en eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que lorsqu'on ne connaît pas la loi, on est ignorant par rapport à notre faute. Lorsqu'on a connaissance de la loi qui nous condamne, le péché qui est en nous se révèle à nos yeux, se révèle à nous. Et on se rend compte de notre condition. Et on se rend compte qu'on ne peut pas échapper à la sentence. C'est juste clair et net. L'évangélisation biblique, la loi c'est pour le fier et la grâce c'est pour l'humble. Comprenez bien cette parole. La loi c'est pour le fier. Et la grâce, c'est pour l'humble. parce que la grâce, on ne la mérite pas. Seigneur, ni par notre volonté, ni par nos actions, mais par grâce, que Jésus-Christ nous a sauvés. Et heureusement que ce n'est pas par notre volonté, ni par nos actions, parce que notre volonté, elle est changeante, et nos actions, elles sont irrégulières. Mais par grâce, dans son dessein, dans son plan. Le secret de mieux garder de l'enfer, du coup, l'utilisation de la loi dans l'évangélisation, elle a été mise de côté, elle a été oubliée, elle a été, je dirais pas non centralisée, mais désutilisée. Du coup, on oublie qu'on est pécheur et on oublie d'annoncer aux gens qu'ils le sont. Alors, j'aime beaucoup cet auteur. Et je vous préviens, c'est un pavé. Je ne crois pas qu'on puisse prêcher l'évangile sans prêcher la loi, c'est ce qu'il dit. Abaissez la loi et vous diminuez la lumière par laquelle l'homme perçoit sa culpabilité. C'est une perte sérieuse pour le pécheur et non un gain, car cela rend moins probable sa conviction de péché et sa conversion. Je dis que vous avez dépouillé l'évangile de son auxiliaire le plus capable, son arme la plus puissante. Lorsque vous avez mis de côté la loi, vous en avez à nouveau retiré le maître qui est censé amener les hommes à Christ. Ils n'accepteront jamais la grâce jusqu'à ce qu'ils tremblent devant une loi juste et sainte. C'est pourquoi la loi sert un but nécessaire et on ne doit pas la retirer de sa place. Sa place n'est pas la finalité, n'est pas ce qui nous amène à notre salut. C'est pas ça qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est notre foi. Mais on accède à la foi quand on se rend compte qu'on est pourri jusqu'à la moelle et qu'on est donc imméritant devant l'accès au paradis. Comprenez bien le caractère central de la prédication de la loi. Jean Calvin disait que c'est un fait. La loi de Dieu, que l'on appelle loi morale, n'est rien d'autre qu'un témoignage de la loi naturelle de la conscience que Dieu a gravée dans l'esprit des hommes. La loi naturelle de la conscience que Dieu a gravée dans l'esprit des hommes. Dieu a mis dans notre cœur sa loi depuis la création. Romains 2,15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendent tour à tour. J'aime beaucoup cette image qui a été soulignée par Guillaume hier, qui nous rappelle qu'avant la chute, Dieu dans son plan avait mis sa loi en nous. C'est comme s'il avait construit un grand édifice, un grand bâtiment, un monument, l'équivalent d'une cathédrale, d'un temple, non religieux, mais un monument de pierre. Et la chute a provoqué la destruction de ce monument. Seulement, lorsque vous allez dans les pays aztèques ou dans les contrées d'Amazonie et que vous allez dans la cambrousse et que vous fouillez, vous retrouvez des ruines, vous retrouvez des résidus, vous retrouvez des pierres qui sont, des murs qui sont démolis, une structure qu'on peut à peine deviner. Mais dans notre cœur, aujourd'hui, à cause de la trace du péché, à cause de l'action du péché en nous, dès Genèse 3, ça a provoqué quoi? Que sa loi parfaite, que l'édifice qu'il avait construit en nous, a donc été écroulé, mais il reste des résidus. Pourquoi est-ce que finalement, à travers le monde entier, on peut voir qu'il y a des bases communes? On peut voir que, à travers toutes les tribus, on n'a pas besoin d'apprendre aux gens que c'est pas bon de mentir, que c'est pas bon de voler, que c'est pas bon de tuer quelqu'un. C'est inné en nous, personne ne nous l'a appris. Bien sûr, ça varie. On voit des variations, on voit qu'il y a des ethnies, des peuples qui vont avoir plusieurs femmes mais qui vont pas tolérer le meurtre, d'autres qui vont tolérer le meurtre mais qui pour eux est intolérable qu'il y ait plusieurs femmes. Il y a des variantes. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu a été chamboulée par le péché, a été déréglée. On voit qu'on n'est plus phasé sur la même fréquence que Dieu est. C'est comme une station radio mal réglée. Et si on trouve pas la bonne fréquence, qui est le Saint-Esprit, on n'est pas phasé sur Dieu. Et donc on est déréglé, et notre comportement est immoral. Juste, pour ce soir, je veux juste bien résumer la chose. Parce qu'on a vu des points, demain on en verra d'autres, mais que la loi a une place qui est importante dans la notion de compréhension de notre état en tant que pécheur. Seulement, comme disait Raph, utiliser un verset, utiliser une approche comme the technique, c'est ne pas permettre, ou du moins c'est stigmatiser l'évangélisation. Alors que non. Dieu s'exprime avec son esprit et dans toute liberté, comme il le veut, où il le veut, comme il l'entend, dans sa souveraineté. Donc, il est important de souligner le côté pécheur de l'homme pour qu'il puisse se rendre compte qu'il a besoin d'un sauveur, qu'il est condamné, qu'il est ennemi de Dieu. Et ensuite, la bonne nouvelle, elle prend tout son sens. Elle prend toute sa plénitude, elle prend toute sa place. Et on comprend pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être sauvé. On comprend pourquoi est-ce que Christ est venu. On comprend pourquoi est-ce que son but, c'était qu'une chose, aller à la croix. On comprend tellement de choses dans la parole de Dieu. Et on comprend pourquoi est-ce que Dieu, et comment est-ce qu'il nous a aimés, au point de mourir pour nous. Au point de vivre la vie qu'on est incapable de vivre, et de mourir la mort qu'on est censé avoir. Parce qu'on n'est pas capable de vivre selon la loi, parce qu'on la transgresse. Merci.
On peut applaudir Alex pour son intervention.